Je pense que tout le monde a repris place. Nous allons parler maintenant des dangers à l'intérieur de l'Église. On a vu ce qui arrivait de l'extérieur. Maintenant, on va voir ce qui émerge de l'intérieur. L'Église a combattu sur deux fronts. Et je voudrais vous ramener dans les Actes des Apôtres, puisque nous avions lu un seul verset tout à l'heure pour parler des dangers extérieurs. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons au chapitre 20. Je vous rappelle que c'est une parole de l'apôtre Paul aux responsables de l'église d'Éphèse. Acte 20, 29. « Moi, je sais qu'il s'introduira parmi vous, dangers de l'extérieur vers l'intérieur de l'Église. Il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et voilà maintenant le deuxième danger, il s'élèvera du milieu de vous. » Notez bien la différence. Il y a ce qui s'introduit de l'extérieur vers l'intérieur, mais il y a aussi ce qui s'élève du milieu de nous. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Là encore, on remarque qu'ils ne les entraînent pas après Christ. Les gens n'y gagnent rien au niveau de la personne de Christ, mais ces hommes-là entraînent les disciples après eux. S'élèvera du milieu de vous. Nous sommes donc maintenant amenés à examiner de très près les dangers intérieurs à l'Église. Des choses pernicieuses, ces hommes vont introduire des choses pernicieuses. Le texte grec dit des propos ayant été tordus ou tournés de travers. Le texte grec dit encore des choses ayant été tournées en tous sens, portant le désordre, ou encore des choses ayant été tournées d'un autre côté, ayant été détournées. On a ici le visage réel de l'apostasie. Le livre de l'Ecclésiaste dit au chapitre 7, verset 29, « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » À période régulière, mon propos n'est pas de m'étendre là-dessus ce matin, je serai simplement souligner un fait, mais à période régulière, nos églises modernes ont été confrontées à des fausses doctrines. Il y a des années en arrière, certains anciens certainement ici se souviendront de ça, nos églises ont été secouées par une doctrine qui voulait que des chrétiens authentiquement, je dis bien authentiquement régénérés, puissent être possédés de démons. Donc on a commencé à chasser des démons sur les chrétiens, démons de gourmandise, démons de je sais pas quoi. Donc ce qui fait que les chrétiens ne savaient plus s'ils étaient remplis du Saint-Esprit ou possédés. On a eu, dans les années 1968-69, la doctrine du rebaptême au nom de Jésus. Parce qu'on trouvait que dans les Actes des Apôtres, il y avait certains textes où les gens étaient baptisés au nom de Jésus. Donc si vous aviez été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il fallait être rebaptisé. Et vous avez des églises, nos églises, à certains endroits, ont perdu des dizaines de personnes avec ça. On a aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Et j'apprends qu'il se fait un ravage terrible sur certains champs d'Afrique. On prêche que plus on va se tourner vers le Seigneur, plus on va gagner d'argent. Alors que la Bible dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Alors on promet aux gens la prospérité, mais bien sûr, il faut que tu donnes à l'offrande. Plus tu donnes, plus tu vas être prospère. Alors après, l'Église est prospère, mais les gens sont pauvres. Je fais souvent des missions dans le sud de la France parmi le peuple tzigane. Je suis encore allé dernièrement faire un séminaire d'enseignement en Espagne. Et là-bas, ils sont confrontés aux souffleurs, les gens qui soufflent. parce qu'on se base sur le texte où Jésus a soufflé sur les disciples, alors les prédicateurs soufflent sur les gens, il paraît qu'ils tombent. Mais il faut savoir que tout ça, ça arrive. Tout ça, ça arrive. L'apôtre Paul dit pour entraîner les disciples après eux. Le grec dit derrière eux, parce que bien sûr, eux, ils mènent le bal. Hein. Ce sont eux qui dirigent les choses. Et encore une fois, je le souligne avec force, ils n'entraîneront pas les disciples après Jésus ou derrière Jésus. Mais dans ce genre de déviation, on parle toujours de l'homme et non pas de Jésus. Alors que lorsque l'apôtre a rassemblé les anciens d'Éphèse, il leur dit ceci en ce qui le concerne, « Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. » Et j'aurais voulu entendre Paul, qui pourtant avait un CV spirituel à faire pâlir bien des gens aujourd'hui. Les tournées missionnaires, les fondations d'église, les miracles, les prodiges, les délivrances. Il dit « Servant le Seigneur avec larmes, en toute humilité, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher. » Le pasteur peut avoir de la crainte, mais si je prêche tout ça, qu'est-ce qui va se passer dans mon église? Est-ce que je vais perdre des gens? Est-ce que tout le monde va me suivre? J'ai passé ce cap-là. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai plus d'église aujourd'hui. Non, mais c'était pour vous dérider deux minutes, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une tentation. Or, nous ne sommes pas là pour faire de la démagogie. Nous sommes là pour préparer un peuple pour le retour de Jésus. J'ai eu, il y a quelques jours, l'un de mes amis, enfin, on se connaît en tout cas, ami c'est beaucoup dire, mais on se connaît, pasteur qui reste, excusez-moi, droit dans ses bottes, établi sur la parole de Dieu, il est au Canada. Il m'a dit, Paul, chez nous, là-bas, il y a certaines églises, c'est de la folie. Des méga-church, 5000 personnes au culte. Ah, mais ils peuvent avoir 5000 personnes au culte, ils admettent les homosexuels, ils admettent le concubinage, ils admettent plein de choses. Alors les gens peuvent venir, ils peuvent venir. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, parce que c'est bien d'avoir le même message en public et en privé, et pas changer le message suivant l'endroit où on est. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Humilité, larmes, sans rien cacher, travailler à ce qui est utile au peuple de Dieu. Il a prêché la repentance, il a prêché la foi. L'apôtre Pierre a parlé des dangers qui émergeaient de l'intérieur de l'Église. Seconde épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, c'est allusion à l'Ancien Testament. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il est incontestable que dans l'Ancien Testament, c'est le courant prophétique qui dirigeait le peuple. Le prophète, ce n'était pas rien. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Donc, l'impact du courant prophétique dans l'Ancienne Alliance va être remplacé par l'impact doctrinal dans la Nouvelle Alliance. Parce que là, Pierre ne dit pas les faux prophètes pour l'Église, il parle des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Vous remarquez les dangers internes, fausse doctrine, apostasie, dissolution, cupidité, tromperie. Et si nous avions eu le temps de lire la suite du texte, donc la suite du chapitre 2 de la seconde épître de Pierre, on aurait remarqué comment le Saint-Esprit souligne l'audace de ces faux docteurs. La Bible dit l'audace, l'arrogance, ce sont des hommes arrogants. Ils sont esclaves de leur nature déchue, ils vivent dans la corruption et ils vivent dans l'adultère. Et là, ici, j'arrive à un deuxième point important, c'est que dans toute l'histoire biblique, que ce soit Israël dans l'Ancienne Alliance ou l'Église dans la Nouvelle, et je parle de l'histoire de l'Église depuis le 1er siècle jusqu'au 29 avril 2017, il y a une constante, c'est que les dérapages ont d'abord lieu au niveau spirituel et après, le dérapage se situe au niveau moral. Ève a eu un dérapage, et on sait lequel, sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un dérapage spirituel. Il y a une désobéissance à la parole de Dieu. C'est au chapitre 3 de la Genèse. Au chapitre 4, vous avez le dérapage moral, Caïn tue Abel. Et dans la vie d'hommes et de femmes qui, malheureusement, ne sont pas des bons exemples pour nous dans l'Écriture, mais Dieu nous parle de tout exprès, pour notre avertissement, il y a d'abord le dérapage spirituel et le dérapage moral ensuite. Donc il y a ces faux docteurs qui amènent des sectes pernicieuses, ça se situe au niveau théologique, et après vous avez la corruption morale qui arrive, tout se suit. Des sectes pernicieuses, le grec dit des factions de perdition, c'est le mot qui a donné en français hérésie. Il est question de leur dissolution, je vous l'ai lu, le grec dit débauche. Quand il est question de leurs paroles trompeuses, le grec dit des paroles modelées. Je ne sais pas où qu'est-ce le moule, mais il y a un moule. Hein. Ce sont des paroles modelées. Et puis, écoutez avec moi l'avertissement qui vient du Saint-Esprit, seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Il viendra un temps. Et je vous le dis ce matin solennellement et avec peine. Nous y sommes. Nous y sommes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apostasie a et elle aura ses docteurs. J'ouvre une parenthèse. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam. C'est un homme bizarre, Balaam. J'ai vraiment, après 50 ans de lecture de la parole de Dieu, j'ai du mal à le cerner encore. Il a une mission. C'est celle d'aller prêcher, prophétiser la vérité à Balak. D'ailleurs, il n'aurait pas dû y aller. Et c'est étonnant parce qu'il a tellement insisté qu'à un moment donné, Dieu lui dit, « Bah, vas-y. » Parce que Dieu sent bien que son cœur est tordu. Donc Dieu lui dit, « Vas-y. » Mais à peine il est parti que l'ange de l'Éternel se place sur son chemin pour l'arrêter. Vous allez dire, « Mais alors, il ne fallait pas qu'il parte. » Mais non. Et c'est curieux dans notre vie. Quand Dieu voit qu'on est entêté, qu'on n'est pas vraiment honnête par rapport à son plan, bah, Dieu nous dit, « Bah, vas-y. » Vas-y. Il n'aurait pas dû y aller. Mais ce qu'il y a de bien à ce moment-là chez Balaam, c'est que finalement, il va subir avec, vérité, avec intégrité, les injonctions du Saint-Esprit. Et quand il se trouve devant Balak, roi de Tsippor, il prophétise la vérité. Il n'entre pas dans ce que Balak attend de lui et il annonce courageusement le message de Dieu. Le courant prophétique reste intact. Seulement ce que le diable n'a pas pu faire par le courant prophétique, il va le faire par la doctrine. Parce que quand je lis l'une des lettres de Jésus à une église de l'Apocalypse, Jésus parle de la voix de Balaam qui enseignait à Balak. Que Dieu n'a rien dit sur la doctrine. Balaam a été fidèle dans le domaine prophétique. Et comme ça n'a pas marché, parce qu'il est resté fidèle, avant de partir, Balaam lui a dit, écoute, puisque tu m'amènes la monnaie, on va faire un deal. Tu me donnes tes sous et je vais te dire, non pas ce que l'Éternel a dit, parce que ce que l'Éternel a dit, je te l'ai dit. Alors on va laisser le courant prophétique de côté. Maintenant, je vais te parler de doctrine. Tu vas enseigner. Je t'enseigne ce qu'il faut faire pour triompher d'Israël. Tu vas entraîner le peuple à la débauche avec les filles de ton peuple. Et ce que le diable n'a pas réussi à faire avec le courant prophétique, il le fait avec le courant doctrinal. Et c'est la même chose en ce qui concerne les pièges de l'Église des temps de la fin. Si, dans un premier temps, le diable ne réussit pas avec des choses vraiment surnaturelles, il le fera par la doctrine. Il polluera une fraction du peuple de Dieu. Dans ce courant-là, permettez-moi de dénoncer certaines choses courageusement ce matin. La prédication de l'évangile de la croix va disparaître. Les prédicateurs apostats ne prêcheront plus la croix, ni le sacrifice de Jésus. Ce sera l'une des caractéristiques du message des faux docteurs. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés. Si vous persévérez dans cet évangile et si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, ajoute Paul, avant tout, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de Jésus, de la croix du Seigneur Jésus, par laquelle le monde est crucifié comme je le suis pour le monde. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez, si je vous fais une réunion d'évangélisation et que je vous prêche, pardonnez-moi l'expression d'avance, vous êtes plein d'amour, vous allez me donner votre absolution. Si je vous prêche d'avance un Jésus fourre-tout, comme je l'appelle, venez à Jésus, il va vous donner des meilleures fins de mois, il va vous donner une belle-mère, une meilleure voiture, votre patron va être gentil, votre salaire va augmenter, et à la fin de la réunion, qui veut venir à Jésus? Mais si tu viens pas, t'es fou. Qui veut pas d'un Jésus comme ça? Mais ça, c'est de l'évangélisation ratée. Parce que le message de l'évangélisation, c'est pas ça. Le message de l'évangélisation, c'est de dire qu'il y a un diable, qu'il y a un péché, qu'il y a un enfer, qu'il y a une croix dressée pour nous arracher à ça. Que Dieu est un Dieu d'amour, quelle que soit la fange dans laquelle on est. Et Dieu nous tend son bras d'amour pour nous pardonner, nous sauver et nous faire vivre avec lui. Qui veut de ce Jésus-là? Ah, s'il n'y a pas une action du... Alléluia! Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est un public conquis, ça, déjà. Mais pour répondre favorablement à ça, il faut dans nos réunions une action du Saint-Esprit. Parce que ça va contre nature. Mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc, dans cet évangile apostat, et ça émerge du milieu des églises, il ne sera plus question de dénonciation du péché, de la réalité de l'enfer, de la nécessité de la repentance, de la conversion, du renoncement radical au péché et au monde. Je suis très intéressé par les témoignages quand il y a des baptêmes. Un jour, il y avait un jeune qui arrivait au micro, là, pour... Alors c'est vrai qu'on peut avoir le trac, on peut être intimidé, je veux bien, tout ce qu'on veut. Le jeune arrive au micro, il n'a pas grand-chose à dire. Alors le pasteur lui tend la perche, quoi. Dans l'auditoire, il lui dit, écoute, quand tu as rencontré Jésus, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Alors on rit pour ne pas pleurer. Mais on sent bien que derrière, il manque un fondamental, comme on peut dire. Il n'y aura plus chez certains un appel à la souffrance. Or, Paul écrit aux Philippiens, il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Le message du sacrifice de soi et de l'abnégation pour la cause du royaume de Dieu va disparaître. Je suis effrayé, je ne vous le cache pas. Je suis effrayé, mais je pense que c'est un saint effroi du contrat du disciple fixé par Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quand tu renonces à tes vacances, c'est que tu as peu de vacances. Quand tu renonces à toi, c'est qu'il n'y a plus de toi. Théoï. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il n'est pas question là de se charger de la croix de Jésus, il s'en est chargé lui. Donc ce n'est pas une croix pour l'expiation. Ce n'est pas une croix de souffrance physique. Bon, on peut avoir, par exemple, un problème d'arthrose dans la hanche, à non pas dire, « Ah, vous savez, ma petite sœur, il faut porter sa croix. » Ah non, ce n'est pas ça du tout. Non. Porter sa croix quand un juif ou un romain à Jérusalem voyait une croix passer dans la rue, sur le dos de quelqu'un, il savait que quelques heures après, il était dessus et il mourait. Prendre sa croix, c'est dire, Seigneur, tu as donné ta vie et tu m'as racheté, maintenant je porte la mienne pour être consacré. On ne parle plus de moi, de mes pensées, de mes projets, de mes sentiments, de mes désirs. Je meurs avec toi, ça va être dur. Mais c'est ça le contrat du disciple. Seigneur, j'accepte cette abnégation totale. Je me donne à toi et je te suis. Et vous savez quoi? Il vous faudra des soldats romains. Parce que c'est plus facile de se crucifier soi-même. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile. Alors, on peut s'enfoncer un clou dans les pieds, un clou dans une main droite, mais comment tu vas faire pour la main gauche? Alors, ne vous en prenez pas aux soldats romains dont Dieu se sert pour vous crucifier. C'est peut-être la petite sœur qui, demain matin, vous dira pas bonjour. Ne soyez pas vexés. Bénissez Dieu pour la croix. Le clou qui va s'enfoncer. N'en voulez pas au frère qui vous a fait des petites misères. Il n'a pas raison. Mais Dieu se sert de tout ça pour nous mettre à mort. C'est un collègue de travail, c'est le patron, c'est un voisin, je ne sais pas. Une circonstance, une épreuve, Dieu se sert de plein de choses, mais laissons-le nous faire mourir. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et il y a une solitude spirituelle qui est terrible, qui n'est pas le fait qu'on a fait le vide autour de nos amis. La solitude spirituelle la pire, c'est celle qui consiste à être seul parce qu'on n'est pas mort à soi-même et qu'on ne peut pas porter de fruits. S'il ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Alors il faut que nous gardions cet évangile de la consécration à Christ, sacrifice de soi. J'étais étonné de lire dans la parole du Seigneur ce que les apôtres ont fait dans une tournée missionnaire. Paul est passé, sauf erreur, dans l'ordre, à Icône, à Lystre, à Derbe. Et on sait comment ça s'est passé. Et puis ils ont fondé des églises, il y a eu des miracles, des guérisons, des conversions. Et puis, ils ont fait le parcours inverse. Ils sont repassés par Derbe, par Lystre et Icône. Et il est dit qu'ils ont fortifié les disciples, leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On ne fortifie pas une église en lui laissant l'impression que de vivre Christ, ça va être la disparition de toutes les épreuves. Parce que quand les gens vont se trouver devant les épreuves, ils vont se dire, c'est pas pour ça que je me suis converti. Si la vie chrétienne c'est ça, j'étais mieux dans le monde. On fortifie un frère, on fortifie une sœur, on fortifie un foyer, on fortifie les églises, et c'est ce que faisaient les apôtres, en rappelant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qui fortifie les gens. Parce que quand l'épreuve arrive, ils disent, oui, mais on le sait. C'est notre lot sur la terre, il faut se battre et il faut tenir. Et bien cet évangile-là qui n'est pas plus populaire, vous comprendrez bien qu'il va disparaître du message des apostats. Les faux docteurs vont offrir le salut, une grâce bon marché. En solde, comme j'ai l'habitude de le dire, sans tenir compte de l'ordre qui nous a été donné de nous repentir, de nous séparer de l'immoralité, de demeurer fidèles à Dieu dans la voie de la justice. Une chrétienne qui n'en était plus une et dont j'ai été le pasteur m'a dit après sa chute dans l'adultère, « Mes frères, j'ai retrouvé ma paix et mon équilibre avec mon amant. » Je pense qu'on n'avait plus le même évangile. On va assister à des évangiles basés sur les désirs humains, sur les ambitions, les intérêts personnels, des évangiles qui vont devenir populaires. Avez-vous remarqué que dans le texte que je vous ai lu, les apostats sont parfaitement dépeints? L'apôtre Paul écrit à Timothée, donc un serviteur de Dieu, je reviens sur le texte, il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, quand on a des démangeaisons, c'est qu'on est malade, hein. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule, c'est pas quelques-uns, ça va débarquer en foule, je vous le prophétise, parce que la Bible m'autorise à le faire, ça va débarquer en foule, une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. En principe, le ministère, et mon frère, je sais qu'il est d'accord avec moi, le ministère tel qu'on le conçoit, je ne parle pas du service, de tout service dans l'Église, je parle du ministère de la parole, il vient de Christ. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Christ qui donne les hommes à l'Église. Le ministère est un don de Christ. Donc le ministère vient d'en haut. Et parce qu'il vient d'en haut, personne ne peut le détruire ni l'arrêter. C'est un don de Christ. Mais là, dans le courant d'apostasie, avec ce que j'ai appelé les dangers internes, vous remarquez que les ministères, ils viennent d'en bas. C'est le peuple qui se donne des docteurs. Ce ne sont plus des hommes appelés de Dieu, équipés par Dieu, formés par Dieu. Ils viennent de la base, c'est le peuple qui vient. « Oh, mais écoute, tu chantes bien, pourquoi tu ne fais pas pasteur, toi ?»« Oh, tu es au chômage, et pourquoi tu ne fais pas pasteur ? Ça va arrondir tes fins de mois, plutôt que d'être au chômage. » Écoute, le pasteur, on en a un petit peu assez... des prédications, du virage qu'il prend là, avec les messages, la sainteté, tout ça. Ça serait bien que tu parles d'un appel et puis que tu viennes à faire un petit peu le contrepoids de tout ça. Ils se donneront une foule de docteurs. Ces hommes-là vont s'éloigner de la foi, mais, et c'est ça la subtilité, ils vont continuer dans la profession extérieure du christianisme. Ils vont, Paul le dit, avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Vous savez, l'attitude décrite par le Saint-Esprit ici, « supporteront pas la saine doctrine, démangeaison d'entendre des choses agréables », ça a été une attitude de tous les temps. Mais je dis qu'à l'approche de la fin, puisqu'on parle de ça dans cette journée, la situation va empirer. Beaucoup prétendront être chrétiens. Et je vous le dis parce que c'est ma conviction, je voudrais me tromper. Ces gens-là vont s'assembler dans les églises. Ils sembleront vénérer Dieu, mais ils ne supporteront plus la parole de Dieu intégrale. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Ils ne supporteront plus la foi apostolique. Ils ne supporteront plus, comme je l'appelle, la foi originelle du Nouveau Testament. Ils ne supporteront plus les exigences bibliques qui conduisent à se séparer des injustes. Dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans la Nouvelle Alliance, mais c'est quand même intéressant de relever qu'il y a les mêmes principes. Il y a dans Ésaïe une parole terrible qui vient du Seigneur. C'est un diagnostic terrible. Dans Ésaïe 30, versets 9 à 11, Dieu parle de son peuple. Et il dit, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, c'est comme ça qu'on appelait les prophètes à ce moment-là, ne voyez pas. Vous êtes voyants, mais on vous demande de ne pas voir. Qui disent aux prophètes, et on a l'impression que 2 Timothée, c'est l'écho de ça, qui disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Mais c'est incroyable d'entendre ça. Et ils ajoutent, ces gens-là, et c'est Dieu qui fait le constat, ils disent, détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Ce chemin qui est le chemin de Dieu, on en est fatigué. Détournez-vous de ça, écartez-vous de ça. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Vous entendez bien ? Mais on hallucine. Enfin, le peuple qui est censé être le peuple de Dieu, qui s'adresse à ses responsables et qui dit « on veut bien des réunions, mais vous éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Alors on va avoir des chants, on va avoir de la musique, des instruments, on va avoir des prédications, mais surtout, ne nous mettez pas dans la présence de Dieu. Et on va terminer, parce que la boucle sera bouclée. J'ai hésité pour cet après-midi. Je me suis dit, tu termines par Philadelphie ou par Laodicée ? Et je me suis dit, mais Jésus a terminé par Laodicée, et c'est lui qui sait mieux prêcher. Donc tu gardes la ligne de Jésus. Et on va finir ce soir par Laodicée, à moins qu'on meure avant ou que Jésus revienne. Non, mais c'est comme ça. Eh bien, Laodicée, c'est une église, mais Jésus est dehors. Et personne ne s'en rend compte. Alors, je ne vais pas vous dire ce que je veux dire ce soir, parce que vous ne reviendriez pas. Mais Jésus est dehors. Et c'est l'esprit du peuple de Dieu au temps d'Ésaïe. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Donc le peuple s'assemble, mais ne veut surtout pas entendre parler de la présence de Dieu. Tout ça, c'est fini. On veut autre chose. On veut de l'ambiance, ok, mais arrêtez avec tout ça, quoi. Nous, on veut passer à autre chose. Jérémie, chapitre 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à ça. Que ferez-vous à la fin ? Nombreux sont ceux qui, dans les églises, ne tolèreront plus la prédication authentique de l'homme de Dieu. Ils vont exiger qu'on leur prêche des doctrines moralement inférieures à celles contenues dans le véritable évangile. J'ai fait des missions dans le sud de la France. Écoutez bien. J'ai fait une mission d'enseignement biblique. Et à m'écouter, vous savez ce que je conjugue maintenant. Le samedi soir, nous avions 900 chrétiens pour la réunion d'études bibliques. Mais un après-midi, un groupe de chrétiens est venu me trouver pendant la pause. Ils m'ont dit, mes frères, ce que vous avez prêché, c'est ce qui nous a sauvés il y a 30 ans. Mais on ne l'entend plus. On ne l'entend plus. Nous souffrons de sous-alimentation. La sœur pleurait. Elle m'a dit, la dernière longue veille dans notre église, ça a été des sketchs d'Eli Kaku. La longue veille. Mais moi, j'étais gamin. Dans une longue veille à Rouen, j'ai entendu Donald G. prêcher sur le Saint-Esprit. J'ai entendu des hommes de Dieu, et j'avais 10 ans, je m'en souviens encore, ces hommes-là marquaient des gosses par l'onction qu'il y avait sur eux. Nous avions des salles pleines pour la fin de l'année, des centaines de chrétiens qui étaient là, qui chantaient, qui priaient, qui louaient Dieu, qui étaient assoiffés de la parole de Dieu. On me parle d'une église aujourd'hui, où le samedi soir, c'est soirée salsa, et ce sont les sœurs qui invitent les hommes. Mais où est-ce qu'on s'en va ? Moi, je vous dis que si, je vous le dis, si vous voulez ça, je pars chez moi cet après-midi. Je ne suis pas là pour avaliser ça. Éloignez de notre présence, le sang d'Israël. Écartez-vous du sentier. Nous, on veut autre chose. Dans 2 Timothée 2, Paul parle des discours vains et profanes. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, encore l'apostasie, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ces hommes de l'apostasie, ces femmes de l'apostasie, n'accepteront pas la parole de Dieu lorsqu'elle parle de repentance, de péché, de damnation, de la nécessité d'être saint et d'être mis à part du monde. Ils ne rechercheront pas les pasteurs fidèles à la parole de Dieu, mais des personnes conformes à leurs désirs charnels. Ils vont choisir des prédicateurs avec des dons d'orateurs, des hommes capables de les divertir, de délivrer des messages qui vont les rassurer, afin qu'ils puissent vivre avec l'illusion d'être chrétiens, tout en vivant dans leur nature pécheresse. Et le pire, je termine avec ça avant de vous parler des 7 manières de triompher des dangers. Mais rassurez-vous, je ne prêcherai qu'une heure sur chaque point. Le pire, c'est dans 1 Jean. Petits enfants, quel terme affectif pour ce vieillard de plus de 90 ans, un homme de l'esprit qui a vu la révélation finale et l'a écrite en 22 chapitres. Petits enfants, et il a écrit ça il y a 2000 ans. C'est la dernière heure. Nous sommes dans les dernières secondes. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, je parle à des gens qui connaissent ces choses. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez bien. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Je le lis, je le crois, c'est la parole de Dieu, je n'ai rien à dire. Mais je suis catastrophé. Et à chaque fois que j'arrive sur ce verset, je me dis, mais Seigneur, est-ce possible que l'esprit de l'antéchrist ait été présent dans les églises de la fin du premier siècle? Et que des gens qui étaient présents dans les églises-là véhiculaient cet esprit-là. L'antéchrist. Et ils ont fini par sortir, parce qu'évidemment, quand l'esprit de Dieu est là avec force et qu'il y a une puissante onction, à un moment donné, l'esprit du diable ne résiste pas. Donc on se demande si c'est possible, et pourtant, l'esprit de l'antéchrist, niant que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu venu en chair, était là dans les églises du premier siècle. Alors, et on va aller manger après. Alléluia. Vous avez vu dans la Bible, ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Je ne suis pas d'accord quand on dit on va entrer dans la présence de Dieu. Ah bon, parce que quand est-ce que tu en es sorti? On n'entre pas dans la présence de Dieu, on y est. Alors on y est là quand on chante, on était quand il chantait, on y était quand on priait. On y est maintenant qu'on médite la parole de Dieu, puis on va continuer à y être autour d'un repas. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Tout se tient, c'est formidable. Merveilleux, alléluia. Alors comment se protéger et vaincre les dangers extérieurs et intérieurs? Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la prétention ni le temps de faire une étude complète sur le sujet, mais je voudrais simplement vous redire, parce que vous le savez, mais vous redire les principes de base essentiels à la sécurité du peuple de Dieu. Je voudrais vous faire une remarque tout d'abord. Ceux qui veulent rester fidèles à Dieu, se soumettre à sa parole, doivent s'attendre à être persécutés et à souffrir pour sa justice. Juste une petite parenthèse là encore. Abraham avait un problème. Dieu lui avait promis une postérité, mais sa femme était stérile. Alors elle a trouvé un moyen. à moyen à l'époque. C'est les mères porteuses. Et elle a dit, bah, écoute, suscite-moi une postérité par Agar, la servante égyptienne. La voix de la chair. Mais Dieu a de la suite dans les idées. Ismaël est né, mais c'est le fils selon la chair. Et quand ce fut l'heure de Dieu, quand Dieu a dit, maintenant c'est l'heure de l'accomplissement de ma promesse, il y a eu l'enfant de la promesse, Isaac. Puis ils ont grandi. Puis à un moment donné, et c'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Galates, où le fils né selon la chair s'est mis à persécuter le fils qui était né selon l'esprit. Dans la même maison, le même père, mais pas la même mère. Là, il y a une mère qui vient de l'Égypte, l'esclavage, et l'autre qui est une princesse, Sarah. Et Paul me dit que le fils selon la chair a persécuté le fils selon l'esprit dans la même maison. Et je vous dis que dans nos églises, c'est pareil. Il y a des gens qui sont nés selon la chair, se sont convertis à une ambiance, mais ils ne sont pas nés de l'esprit. Et puis il y a le peuple de Dieu qui est né selon l'esprit, qui a connu une véritable génération. Et quand vous voulez combattre l'apostasie et dire « Seigneur, oui, on est convaincu, il faut aller dans ce chemin-là », à l'intérieur des mêmes églises locales, vous verrez les fils selon la chair persécuter les fils qui sont nés selon l'esprit. Et ça, c'est normal, il faut s'attendre à ces conflits-là. Il faut les gérer. Avec toute la sagesse de Dieu, il faut les gérer. Mais il ne faut pas s'étonner quand ils arrivent. Et c'est vrai au sein d'une même famille. Dans un foyer, peut y avoir une personne née selon l'esprit, l'autre selon la chair. Et quand l'autre va parler de progresser dans la consécration, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, l'autre va dire « Oh, oh, oh !» Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, rapidement, les sept points. La vigilance. Veillez donc. Paul dit aux anciens d'Éphèse, veillez donc. Il dit à Philippe, à l'église de Philippe, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. C'est impressionnant de voir combien Jésus insiste sur la nécessité de la vigilance. Prenez garde que personne ne vous séduise, Matthieu 24, 4. Que celui qui lit fasse attention, Matthieu 24, 15. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, Matthieu 25, 13. On a les mêmes avertissements dans Marc et dans Luc. Il faut que notre œil soit en bon état. Seigneur, donne-moi d'être vigilant. Donne-moi d'y voir clair. Faites cette prière aussi souvent que vous le sentez. Paul priait pour que Dieu illumine les yeux des Philippiens, des Éphésiens, et que ainsi leur cœur soit vraiment en éveil. Deuxième principe, c'est l'attachement à la parole de Dieu. C'est elle qui est la boussole, c'est elle qui fait l'éclairage sur nos vies. Vous savez, la Bible, on n'a jamais fini de la lire. Ayez une méthode pour la lire, mais lisez tout. Si on écoute certains enfants, ils ne mangent que des frites. Et si on écoute certains chrétiens, ils ne lisent que le psaume 23. Mais il y a le 22 et il y a le 24 aussi. Il faut tout lire dans la parole de Dieu. Moi, je n'aimais pas les haricots. Maintenant, je les aime bien. Mais je n'aimais pas les haricots quand j'étais enfant. Et quand les haricots arrivaient, c'était pas terrible, quoi. Et puis, il avait bien fallu s'y faire. J'avais pas le choix. On ne peut pas manger que des frites. Et on ne peut pas manger que certaines choses qui nous plaisent dans la parole de Dieu. Dieu a tout mis, il faut tout lire. Quand ils ont découvert la manne, pour la première fois, premier réveil, oh, « Manne où ? Manne où ? Manne où ? » Qu'est-ce que c'est ? Vous avez remarqué dans l'Évangile, Jésus est le vrai pain du ciel, ils disent « Manne où ? Qui est celui-ci qui pardonne les péchés ? Manne où ? Quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer ?» C'est la nouvelle manne, mais c'est la même découverte. Manne où ? Manne où ? Ce qu'ils ont dit pour la gelée blanche, là, tous les matins, ils l'ont dit quand la vraie manne est arrivée. Qui est celui-ci ? Qui est celui-ci ? Bref, la manne, c'était formidable. Mais après 40 ans, nous sommes dégoûtés. de cette misérable nourriture. Ah, oh, dis donc, Éphraïm, tu te souviens pas quand on était en Égypte, les melons. Ah, et t'as raison, Sarah. Les oignons, les poireaux, les pots de viande. Ah, ils avaient oublié les 430 ans d'esclavage, les coups de fouet, tout ça, ils avaient oublié. Pensez aux melons. Oh, la Bible, la Bible, la Bible. Robert Givier va encore nous prêcher la Bible. Oh, la Bible, la Bible. Enfin, c'est pas pour vous que je dis ça, c'est pour ceux qui ne sont pas venus. Vous leur direz quand même. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si on décroche de notre communion avec le Seigneur, la Bible n'a plus de saveur. Mais si mon cœur vibre d'amour pour Jésus, je vais aller vers sa lettre d'amour. Parce que chaque jour, le Seigneur a quelque chose à me dire. Chaque jour. Il m'est arrivé d'entendre, dans des réunions d'évangélisation, j'étais pasteur, il m'est arrivé d'entendre des prédicateurs dans l'évangélisation. Ah, mais si je n'avais pas été converti chrétien, je me serais converti à la Réunion. C'est la parole de Dieu, ça nous fait du bien. C'est la parole du Seigneur. Il faut rester attaché à cette parole de Dieu. Elle est l'épée de l'esprit. Il faut que notre main reste attachée à l'épée, comme cet homme de l'Ancien Testament. Paul disait à Timothée, « Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » Je n'ai pas le temps de vous lire d'autres textes, il faut être raisonnable. La troisième chose, c'est l'onction. 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et cette onction va nous faire demeurer en Jésus, selon les enseignements qu'elle nous a donnés. Je peux demander au Saint-Esprit qu'il m'aide à comprendre la Bible, qu'il m'aide à la vivre, qu'il m'aide à la croire, qu'il éclaire certains textes et je vais découvrir que cette onction, cette visitation de l'Esprit va m'aider et ce sera une protection contre l'apostasie. Et puis bien sûr, Christ formé en nous. C'est ce que Paul disait aux Galates, secoués par l'apostasie. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Mais quand Christ est formé en moi, quelle force devant l'erreur! Quelle force devant les fausses doctrines! Christ en moi! Et puis, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la sobriété. Paul disait à Timothée, de Timothée 4, 5, « Sois sobre. » Parce que, s'il y a une tendance chez moi à ne pas être sobre, c'est-à-dire à basculer dans les excès, dans l'excitation, dans l'appétit pour les nouveautés, alors il va y avoir des portes d'accès ouvertes aux déviations doctrinales et morales dans ma vie. Tout est établi, Dieu me demande d'être sobre, eh bien je reste là, dans l'équilibre, dans la sagesse, je demeure dans les choses que j'ai apprises. Et c'est ma sécurité. Sobriété, discernement spirituel. Et ça ne s'invente pas. Il faut le recevoir du Seigneur. Apocalypse 2, 2, « Je sais, dit Jésus, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » On a dénoncé ce matin les marques, les fruits de ces hommes-là. Eh bien, ayons du discernement, dire « Seigneur, mais les fruits, là, ça ne colle pas. » Et même s'il y a du monde, même s'il semble qu'il y ait des résultats, les fruits ne cadrent pas. Donc, je fais preuve de discernement et je me démarque. Et justement, c'est mon septième conseil, savoir se démarquer. Romains 16, 17, 18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement, notez bien, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Nous avons besoin d'être affermis dans le Seigneur. Savoir se séparer des gens, et je vais le dire courageusement, savoir se séparer des églises, savoir se séparer de certaines institutions qui sont en train d'apostasier. Le Seigneur nous demande du courage. Il faut que nous fassions attention à ceux qui nient la puissance du salut de Dieu et qui prêchent un évangile de compromis. Paul dit, 2 Timothée 3:6, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Galates chapitre 1, verset 9, « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, il fallait une autorité apostolique pour dire ce qui suit, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. » Alors comment se protéger et vaincre les dangers extérieurs ? 1. La vigilance. 2. Ton attachement à la parole de Dieu. 3. L'onction de l'Esprit qui va reposer sur ta vie. 4. Travailler jour après jour à ce que Christ soit formé en toi. 5. Ta sobriété. 6. Ton discernement spirituel. 7. Savoir se démarquer. Je conclus. Ce matin, le Saint-Esprit t'a averti et il m'a averti. Le Saint-Esprit te donne et il me donne tout ce qui est nécessaire pour tenir debout. Gloire à Dieu pour ça. Le Saint-Esprit te donne et il me donne tout ce qui est nécessaire pour gagner, parce que nous pouvons gagner. Et il nous donne tout pour triompher. Et permettez-moi, et c'est la fin ce matin, permettez-moi de vous adresser cette parole que Paul a adressée aux anciens d'Éphèse. Je les reprends à mon compte pour vous, et maintenant, après cette matinée. Vous m'aimerez peut-être moins qu'avant. Pas que vous ne me connaissiez pas, alors vous pouvez m'aimer quand vous ne me connaissez pas. Paul a dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu. Et vous pouvez être certain de mes prières quotidiennes pour vous tous, mon frère Gibier et chacun de vous. Je vous recommande à Dieu. Et je vous recommande à la parole de sa grâce, parce que c'est ça votre garantie. À la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. Il peut construire ta vie, ton ministère, ton église. À celui qui peut édifier, ça c'est le présent, et donner l'héritage avec les sanctifiés, ça c'est notre futur éternel. Amen.